BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce club BFM Crypto, comme tous les jours entre 15h et 15h30 sur BFM Business. Mes invités aujourd'hui, Nathalie Janson, économiste, professeure à la Neoma Business School. Bonjour Nathalie.
Bonjour Sandra.
Jonathan Erskovici, fondateur de Stack Insight. Bonjour Jonathan.
Bonjour Sandra.
Et Grégory Raymond qui est à distance, cofondateur de The Big Whale, le média. Bonjour Grégory, on va parler beaucoup de stablecoin, on va parler à nouveau de Meta, on va parler aussi du Lightning Network dans un instant. Vous nous posez vos questions aussi hein, sur tout le secteur, tout ce qui vous passe par la tête, que ce soit des questions pratiques ou des questions économiques. Vraiment, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez, on y répond. Vous le savez, toutes les semaines, entre 15h et 15h30, c'est le jeudi. Notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. Allez, c'est parti, le club BFM Crypto, c'est maintenant. C'est quand les mots ne se mettent pas dans l'ordre, hein, ça arrive comme ça, il y a des jours. Nathalie, je commence par vous. Et par cette réglementation américaine, toujours plus favorable aux stablecoins, c'est la SEC qui a assoupli les règles. Expliquez-nous ça.
Oui, tout à fait, c'est sorti donc il y a assez peu de temps. Jusqu'à maintenant, en fait, lorsque des brokers, en fait, les fameux brokers qu'on connaît comme étant les grandes maisons comme JP Morgan, Morgan Stanley, enfin tous ceux qui sont listés sur les fameux prime dealers en fait qui sont listés aux États-Unis, en fait, lorsqu'ils avaient des stablecoins en tout cas, ils étaient obligés d'avoir ça leur coûtait du capital réglementaire à hauteur de 100% de ce qu'ils détenaient. Et aujourd'hui, après donc toute cette changement réglementaire avec le Genius Act, en fait, il n'y aura plus qu'apparemment 2%. Donc, on passe quand même de la valeur entière à 2%.
On passe aux mêmes règles que pour le reste, en fait.
Exactement. Ouais. Donc, en fait, ça veut dire que finalement, on banalise l'utilisation du stablecoin. Et effectivement, beaucoup prédisent que ça va augmenter, évidemment, la liquidité, surtout, et surtout l'interopérabilité. Ce que ça veut dire que désormais, le stablecoin pourra lier des marchés entre eux qui, jusqu'à maintenant, restaient segmentés, puisque, effectivement, vu le coût réglementaire du stablecoin, vous vous doutez bien que ces maisons-là, les brokers dealers, n'avaient pas du tout envie d'en détenir.
Ouais.
Et donc là, on va lier à la fois effectivement les players des cryptos, c'est-à-dire bon, les Kraken, Coinbase, qui vont pouvoir du coup être liés directement avec ces grands noms des ex-banques d'investissement et institutions financières qui ont pignon sur rue aux États-Unis. Donc effectivement, on promet une plus grande fluidité, donc ouais. Une intégration des marchés. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on est encore, voilà, les États-Unis s'éloignent encore un petit peu.
Je ne vois pas du tout quoi, voilà. Sur quel sujet vous allez venir.
C'est hallucinant.
Ouais, ouais, ouais. Voilà. En tout cas, le secteur du côté des États-Unis salue totalement l'initiative.
Ah bah oui, puisque de toute façon, qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre, c'est pas le problème. En fait, c'est tout simplement que là, le marché effectivement s'ouvre
complètement.
Et quelque part, c'est assez marrant de voir le parallèle dans l'attitude de la réglementation entre les États-Unis et l'Europe sur un thème qui n'a rien à voir, qui s'y est arrivé il y a bien longtemps, il y a 40 ans, quand les marchés monétaires se sont ouverts. En fait, on a eu le même phénomène, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils se sont très rapidement intégrés, et en fait, en Europe, les banques ont verrouillé l'accès à leur parce que c'est leur concurrent direct. Bon, en fait, on voit que on rejoue le même jeu et que de la même façon, Mika anticipant tout ça a bien fait comprendre que les stables c'était presque des banques, donc c'est statut bancaire, donc de toute façon, à nouveau, il y aura pas de perméabilité. En tout cas, la perméabilité sera déjà beaucoup plus difficile. Donc ça se voit déjà aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'effectivement, nous, on aura du mal de toute façon à une intégration des marchés.
J'ai lu quand même que ça s'appliquait pas forcément à tous les stablecoins.
Oui, c'est ceux qui seront Genius compatibles de toute façon.
Ouais, ouais, c'est ça.
Donc ça veut dire que pour le moment, le Tether d'origine,
USDT.
Lui, celui d'origine, il est pas compatible.
Ouais, mais
effectivement,
ouais.
faut que ce soit Genius compatible.
Plus largement, ça veut dire que oui, effectivement, ça va ouvrir complètement ce marché-là, et c'est un marché qui déjà croît énormément outre-Atlantique, quoi.
Oui, tout à fait. Donc en fait, ça ne fait que continuer. En tout cas, les stablecoins, s'ils deviennent s'ils sont déjà des acteurs importants en termes d'infrastructure de paiement, ça ne fait que renforcer leur présence.
Je fais un pas de côté, évidemment, je pense à l'euro numérique là comme ça. À chaque fois qu'on parle de stablecoins aux États-Unis. Moi, je parle, j'entends euro numérique en Europe. Potentiel départ de Christine Lagarde, on ne s'est pas vu depuis qu'on a eu cette annonce ensemble. Mais c'est vrai que vous pensez que ça pourrait peut-être changer ce projet-là, ce calendrier-là, cette stratégie-là?
Moi, j'y crois pas trop. D'ailleurs, son départ au motif que, en fait, il faudrait que son successeur soit voté par Macron et Merz. Je trouve que c'est une très belle illustration de ce qu'est l'indépendance de la Banque centrale en Europe. Moi, ça m'a fait beaucoup sourire. Personne n'a beaucoup relevé, mais je trouvais ça quand même qu'une justification qui était quand même pas mal.
Disons mais que c'est un procès qu'on fait aux États-Unis.
Exactement.
Et là, on est à nouveau.
Ouais. Bref, changeons de sujet pour le sujet qui nous intéresse. Je pense qu'en fait, c'est ancré, en tout cas, de ce que disent ceux qui veulent effectivement que ça arrive. Parce que j'entendais donc la sous-gouverneure, donc Agnès Benassi-Kéré. Ils ont vraiment, enfin, pour eux, j'ai l'impression que, étant donné qu'ils voient que les États-Unis sont partis de très loin avec le stablecoin dollar, mais enfin, c'est pas les États-Unis, c'est les acteurs, eux, sont partis déjà depuis longtemps. Ils ont l'impression qu'en fait, on va pas y arriver. Et puis, avec la réglementation qu'on a, on risque pas d'y arriver. Façon privée. Ouais. Donc, ils se disent « Ah, mais il faut absolument qu'on fasse un truc, donc on va faire un truc d'infrastructure. » Moi, je suis de plus en plus persuadée qu'ils veulent aller sur leur infrastructure, en fait, de gros, parce qu'ils veulent rivaliser avec une infrastructure, en fait, outre-Atlantique. Et c'est pour ça que je pense qu'ils n'abandonneront pas. Maintenant, la version, effectivement, utilisateur final, j'ai l'impression que, oui, ils y tiennent toujours, mais on voit bien que là, c'est fini. En fait, ça sera plus une DLT, hein. C'est quand même relativement clair. Finalement, ils savent pas trop, mais en fait, s'ils savent que c'est trop compliqué et qu'ils seront sur un truc centralisé, mais ils tiennent beaucoup à leur euro numérique de gros.
Oui,
parce qu'ils veulent concurrencer au niveau en fait de l'infrastructure là pour le coup de montrer que l'euro est attractif.
C'est vrai.
Et ça se voit. Ils ont ajouté un autre truc. Pourtant c'est pas dans le même ordre d'idée puisque c'est de l'euro normal. Mais en fait ils ont aussi la Banque Centrale Européenne a ouvert des nouveaux canaux de liquidité d'accès à la liquidité internationale directe. Et là c'est pareil, c'est pour faire de la pub à l'euro comme étant la monnaie qui peut aider au niveau international d'avoir des injections de liquidité. Donc là ils sont vraiment dans une démarche très marketeur. Utilisez-moi, je suis hyper efficace.
Ouais, c'est intéressant de voir ces deux stratégies différentes. Grégory, à distance, un petit commentaire sur ces politiques très différentes entre l'Europe et les États-Unis.
Moi, j'avais une question en fait à poser à Nathalie. C'est par rapport au premier point qu'elle soulevait, donc par rapport aux conditions des broker-dealers qui vont changer au niveau des stablecoins. Est-ce que ça pourrait être de nature à modifier les ratios Bâle 3? Parce qu'on sait que quand on est une banque aujourd'hui, détenir des cryptos dans son bilan, que ce soit du Bitcoin ou des stablecoins, ça oblige d'avoir énormément de garanties en face. Donc, est-ce que ce changement aux États-Unis, ça pourrait un peu assouplir la détention les conditions pour détenir des cryptos quand on est une banque?
Bon, voilà. Grégory a besoin de précision, s'il vous plaît.
Eh bien, apparemment, ça ne concerne que les institutions financières relevant de la SEC, ce qui fait que c'est un calcul du capital réglementaire qui n'est pas le même que Bâle. Tu as tout à fait raison. Mais en fait, ils ne disent rien sur la version Bâle. Donc, pour moment, je ne sais pas. Est-ce qu'après, comme il y a aussi certaines quand même réglementations avec les stablecoins aux États-Unis, est-ce qu'effectivement ils vont quand même faire une péréquation sur les banques? Voilà, c'est ouvert. Pour le moment, on n'en sait rien. Ils ont juste parlé en fait de la charge de capital réglementaire pour ces institutions qui est différente de Bâle 3, parce qu'effectivement, pour le moment, Bâle 3, c'est au même titre que la titrisation, c'est 1250%, c'est-à-dire 100%. C'est totalement couvert par des fonds propres, à 8% à hauteur de ce qui est détenu.
On va parler de Meta dans un instant. Un commentaire, Jonathan?
Oui, très rapidement, moi j'aimerais rebondir sur votre commentaire sur l'euro numérique et sur Christine Lagarde, parce qu'effectivement, alors, pour pas rentrer dans le complotisme trop poussé, mais là, effectivement, on a l'annonce de la démission du gouverneur de la Banque de France, l'annonce de la démission de Christine Lagarde. Effectivement, on peut se dire que le calendrier est quand même un peu suspect.
Il s'en cache à peine, hein.
Voilà.
Le calendrier.
Donc, c'est vrai que ça, c'est quand même un peu dérangeant, je pense, dans un mélange des joueurs qui est un peu dérangeant. Mais effectivement, ne rentrons pas davantage dans la polémique. Et sur la partie euro-numérique, je suis plutôt d'accord avec Nathalie. Et c'est même, on va dire, politiquement stratégique pour la Banque Centrale, pour éviter d'être trop en conflit avec les banques commerciales. Parce qu'elles sont quand même censées être alliées dans ce système. Et là, clairement, un euro numérique retail, le fameux Cash Plus, je crois, il a eu plusieurs noms, était clairement en conflit direct avec les banques commerciales. Donc, ils veulent pousser cet euro numérique de gros. Je pense que la remplaçante de Christine Lagarde va pousser en ce sens, parce qu'effectivement, ils vont pas tout redistribuer les cartes avec tout le travail qui a été fait quand même.
Exactement.
Depuis plusieurs années. Donc, je pense que c'est inéluctable. L'euro numérique va sortir. Une question de délai, mais effectivement, on est plus sur une dimension euro numérique de gros, et la dimension retail sera de plus en plus effacée, je pense.
On passe au sujet suivant. Ça concerne toujours les stablecoins, et c'est Meta qui revient à la charge avec un nouveau projet de stablecoin. Nathalie, vous en parlerez. Grégory, c'était votre sujet aujourd'hui.
Oui. Donc c'est une annonce qu'on a vue dans la presse américaine hier. Donc Meta devrait relancer un projet de stablecoin pour le second semestre 2026. Donc c'est intéressant parce que vous saviez que donc à l'époque quand ça s'appelait que Facebook, ils avaient essayé de lancer un stablecoin. On était en 2019, il me semble, et le projet s'était arrêté sous l'effet de la pression des régulateurs. Donc aujourd'hui, l'écosystème a beaucoup changé. Les stablecoins sont beaucoup plus politiquement corrects. Et donc aujourd'hui, Facebook devenu Meta va à nouveau se lancer dans cette niche, enfin si on peut parler d'une niche parce que c'est devenu tellement gros. Mais dans l'idée, c'est que ça va permettre de fluidifier les paiements et la gestion de trésorerie au sein de l'entreprise. Vous n'êtes pas sans savoir que Meta, c'est un groupe mondial qui a des filiales absolument partout. Et en fait, fonctionner en stablecoin, ça permet de faire énormément de choses sur la gestion de la trésorerie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des coûts modiques, à la grande différence de ce qui se passe dans le circuit traditionnel. Et la seule chose qu'on sait là aujourd'hui, c'est que Meta va pas lancer en propre son stablecoin. Ils vont s'appuyer sur un tiers en fait qui va assurer la partie technique. Donc ce tiers, c'est probablement Stripe, qui est l'une des entreprises, on va dire traditionnelles, qui est le plus avancée dans la crypto, et notamment les stablecoins. Ils ont racheté des très belles boîtes ces derniers temps. Il y a Bridge notamment et Privy. Donc c'est un peu, disons qu'aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise américaine et que vous voulez lancer un stablecoin en marque blanche, c'est vers ce genre d'acteurs qu'on va voir. Voilà, que vous dire de plus. On pourrait se demander est-ce que ça va mieux marcher que Libra. Moi j'ai envie de dire oui, parce qu'en fait tout simplement la différence par rapport à 2018-2019, il y a un cadre réglementaire, que ce soit aux États-Unis et en Europe, et ça sera vraisemblablement un stablecoin dollar. On se rappelle que le Libra, c'était pas un stablecoin dollar, c'était un stablecoin qui réunissait un panier mélangeant plusieurs devises. Et si cet outil avait été adopté mondialement, en fait, ça aurait pu devenir une sorte d'étalon mondial monétaire. Donc là, c'est pas du tout pareil. Ça devrait être que du dollar. Et finalement, c'est au service de la souveraineté américaine. Donc, il devrait pas y avoir trop de blocage là-dessus.
Et Meta met bien en avant que, effectivement, c'est pas sa monnaie. Effectivement, ça a son importance, parce que c'était ça qui avait fait peur aux banques et au système financier à l'époque.
Oui, tout à fait. Et là, c'est tout simplement, oui, un stablecoin, comme il y a le stablecoin de JP Morgan, comme il y a le stablecoin de plein d'autres structures. Et pour vous donner un peu de perspective, en fait, on devrait avoir de plus en plus d'initiatives comme ça dans les prochains mois, prochaines années. Il y a quelques semaines, on avait entendu parler de rumeurs autour d'un stablecoin Amazon, un stablecoin Walmart aussi. Et en fait, oui, ils pourraient lancer leur stablecoin un peu pour les mêmes raisons, donc pour économiser énormément sur les frais bancaires, pour fluidifier toutes leurs transactions. Et ça, il y a plusieurs possibilités. Ils pourraient le laisser à l'utilisation du grand public, mais ça pourrait être aussi uniquement pour leur process interne. Voilà tout ce qu'on peut dire là-dessus.
Ce qui est intéressant, c'est que Meta, c'est 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, Nathalie, si ça marche et qu'ils ont ça en main, c'est vrai que y a un potentiel, évidemment.
Oui, de toute façon, c'est ce qui avait provoqué cette rébellion lorsqu'ils avaient annoncé en 2019 le lancement de leur propre stablecoin. C'est parce que jusqu'à maintenant, les stablecoins, ils étaient à la conquête du marché, donc ils faisaient ce qu'ils pouvaient, c'était des inconnus. Et là, tout d'un coup, on a une boîte connue. Alors à l'époque, elle n'avait que 2 milliards d'utilisateurs, et elle disait je vais faire un stablecoin. Donc effectivement, ça a un petit peu alerté les autorités, qui se sont dit oh mon Dieu,
on a déjà connu qui des va faire fer. On va peut-être avoir un petit problème. Et là, en effet, il rassure par le fait que, étant donné que c'est plus le leur, ils vont pas venir concurrencer frontalement les autorités. Et comme l'a dit Grégory, comme maintenant c'est régulé, voilà, les choses, tout le monde a sa place. Et même si effectivement tout, ça peut être un stablecoin, parce que s'ils ont du succès, ils peuvent quand même atteindre une part de marché significative, puisque ils représentent déjà 3 milliards d'utilisateurs. Mais bon, on est déjà dans un marché où il y a d'autres stablecoins quand même très utilisés. Donc là, ils sont pas comme à l'époque. Je vous rappelle qu'à l'époque, Tether, c'était 6 milliards. Je m'en rappellerai toujours. Voilà, c'est gravé dans ma mémoire. Juin 2019, Tether, c'était 6 milliards. Donc aujourd'hui, c'est, je ne vous dirai pas combien plus, c'est 180, donc vous voyez. Donc 180 milliards, ça fait beaucoup plus, c'est 30 fois plus. Ouais. Donc voilà, c'est tout simplement pour rappeler la mesure, et 30 fois plus simplement presque 7 ans.
Ouais, c'est ça.
Non, à peine 7 ans, puisque c'était le mois de juin.
Mauvais timing à l'époque.
Donc effectivement, on voit bien que là, il y a déjà des challengers. Donc là, il arrive sur un marché qui est... Voilà.
Ouais, avec un lancement, hein, j'ai lu à peu près dans le deuxième semestre de cette année. Hein, ça irait assez vite. On va parler aussi de réglementation avec vous, Grégory, rapidement, avant de parler du Lightning Network. Les PSAN qui vont devoir obtenir un nouvel agrément d'établissement de paiement d'ici le 1er juillet.
Et oui, j'arrive un peu avec des mauvaises nouvelles. Ah ouais. Il va y avoir encore plus de régulation. En fait, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, en fait, si vous voulez, dans MiCA, donc qui est le règlement européen qui encadre tout l'écosystème, toute l'industrie des cryptoactifs, bien dedans, les stablecoins en fait sont reconnus comme de la monnaie électronique. Et en fait, on est en train de se rendre compte que ben si c'est de la monnaie électronique, ben si vous en proposez au public, à vos clients, ben ça veut dire qu'en fait il faut assujettir toutes les plateformes concernées avec la régulation qui concerne la monnaie numérique, la monnaie électronique. Donc il va falloir avoir un agrément d'établissement de paiement. En gros, c'est un agrément que toutes les néobanques ont. Et donc là, toutes les entreprises, tous ceux qui vous vendent en fait des cryptos et notamment des stablecoins vont devoir avoir cet agrément. Le problème, c'est que théoriquement les entreprises qui n'ont pas cet agrément à compter du 2 mars seront dans une situation d'illégalité. Donc ça pose quand même un petit problème, parce que ça fait à peine 2 semaines que la CPR, donc le régulateur des banques, l'a officiellement imposé. Bon, dans les faits, il va y avoir un délai de grâce. Donc les PSAN, qu'on appelle aujourd'hui les PSCA, auront jusqu'en juillet pour se conformer. Bon, c'est un délai de grâce de 3 mois, donc c'est pas grand chose.
C'est pas énorme.
Le niveau d'engorgement qu'il y a en ce moment pour déposer des dossiers chez les régulateurs. Bon, ces entreprises, si elles sont en cours d'agrément pour MiCA, elles pourront déposer un dossier allégé. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça veut dire qu'il va y avoir une double régulation. Normalement, les entreprises crypto, elles sont censées être régulées comme des entreprises crypto, mais après, il va y avoir aussi la CPR derrière qui va demander en fait du reporting de son côté. Enfin, tout ça, c'est des coûts, bien sûr, pour obtenir un agrément supplémentaire, mais aussi c'est plein d'efforts en plus à accomplir. Et on peut se demander pourquoi on est régulé 2 fois pour le même produit, en fait.
Ouais, effectivement. Une fois qu'on l'aura, on sera content. Alors là, on aura un niveau de réglementation qui sera rassurant pour l'investisseur. C'est ce qu'il faut se dire. Il nous reste 6 minutes. C'est pour vous, Jonathan. Le Lightning Network, on parle de ça aujourd'hui. On parle beaucoup du prix du Bitcoin, mais vous, vous dites qu'on passe à côté d'autres choses. C'est quoi ?
Ah, effectivement, Sandra, depuis début février, on voit que le cours du Bitcoin subit des pertes significatives. Et c'est vrai que malheureusement, dans les médias traditionnels, on ne parle que de Bitcoin sous cet angle-là. Alors évidemment que ce n'est pas le cas du plateau de BFM Crypto, et je vous en remercie. mais c'est vrai qu'on a tendance, malheureusement, à parler principalement du prix. Donc moi, je voulais quand même essayer de parler des usages, oui, et de l'utilité du Bitcoin. Et effectivement, l'utilité, c'est aussi le moyen de paiement. Et là, on est sur une dimension d'infrastructure de paiement, en plus justement de cet aspect réserve de valeur que revêt le Bitcoin. Et cette dimension de paiement, elle se matérialise avec le Lightning Network. Donc, qu'est-ce que le Lightning Network, pour ceux qui ne savent pas? C'est ce qu'on appelle les fameuses Layer 2, enfin les couches supérieures sur Bitcoin ou sur d'autres cryptos. Et là, en l'occurrence, le Lightning Network, ça permet justement de fluidifier les paiements, et surtout de les rendre beaucoup plus rapides et beaucoup moins cher.
Oui, parce que Bitcoin, ça va lentement, en fait, pour les transactions et pour finalement ce marché qui grossit. C'est pour ça aussi qu'on a créé ça, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus fluide.
Exactement. Il faut savoir que la blockchain Bitcoin, par nature, justement, elle est très lente, parce qu'il y a un bloc qui est miné toutes les 10 minutes. Donc ça, c'est parfaitement normal et c'est designé de cette façon-là. Sauf que Bitcoin, quelque part, n'est pas designé pour du paiement. C'est pour ça que ils ont inventé, il y a quelques années, le Lightning Network, qui permet justement de répondre à ce besoin-là. Et la grosse news qui est tombée, c'est justement les niveaux de volume sur le Lightning Network qui ont tout simplement explosé en 2025. On est à plus de 1,2 milliard de dollars par mois sur décembre 2025. Sachant que là, rappelez-vous, alors probablement que vous ne vous rappelez pas Sandra, parce que vous n'étiez peut-être pas dans cet écosystème à ce moment-là, mais en 2021, on était à peine à 12 millions mensuels. Donc là, on est sur un facteur x 100. Oui. Nathalie, tu parlais tout à l'heure de
Tether. Et Bitcoin, oui.
Voilà. Là, on est carrément sur un multiple de 100 en 4 ans, sachant qu'on était, je crois, en 2023 à 78 millions par mois.
Oui, on n'était pas
et
encore au
millions. On était à 280. Oui. Et je vois que vos infographistes ont bien fait leur job avec ces chiffres. Ouais, et on voit que le Lightning Network tout simplement passe dans une autre dimension. Donc là, effectivement, on est moins dans cette dimension de spéculation, mais vraiment dans cette dimension d'usage, d'utilité. Payer justement en Bitcoin, c'est possible. Et on le voit à travers ces volumes que l'adoption passe aussi par là.
En quelques secondes, ça va très vite. Hein, c'est ça, effectivement, l'intérêt. Est-ce que ça reste marginal en Europe, par exemple?
Alors, vous avez raison de me poser la question, Sandra. En Europe, on reste sur cette dimension de réserve de valeur parce que l'utilité du moyen de paiement reste limitée, parce qu'on a quand même un fonctionnement du système bancaire qui est plutôt correct, qui est relativement bon, même si on peut évidemment challenger deux ou trois points. Mais l'utilité, elle se révèle plutôt dans les pays émergents, donc en Turquie, au Liban, en Argentine, où là, on est vraiment sur des usages du quotidien. Et même si, d'ailleurs, autre stat intéressante, hein, parce qu'on est sur environ 5 millions de transactions par mois, ce qui fait un panier moyen autour de 220-230 dollars. Parce qu'effectivement, on se disait qu'au début, Lightning, c'était plutôt sur des micro-paiements. Donc là, on est quand même sur des paniers moyens relativement importants de 220 ou 230 dollars, ce qui quand même n'est pas rien.
C'est intéressant. C'est destiné à qui? Je sais que Élodie Lué était venue nous en parler aussi sur une émission, parce qu'elle travaille avec les entreprises et elle nous avait dit qu'avec les entreprises, ça commence vraiment à prendre. Ça fait partie des objectifs des personnes qui les utilisent, en fait.
Bien sûr. Alors, il y a trois cas d'usage principaux aujourd'hui. En fait, le premier, c'est tout simplement les plateformes d'échange. Qui, justement, pour fluidifier les transactions, vont utiliser le Lightning Network pour des dépôts ou des retraits. Donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus commun chez tous les exchanges et qui aura tendance à se démocratiser encore plus, selon moi, dans les prochains mois et les prochaines années. Vous avez donc les entreprises, comme le disait votre chroniqueuse, où on a beaucoup d'entreprises qui utilisent aussi le Lightning Network en tant que moyen de paiement. Et enfin, les utilisateurs. Donc là, on est encore une fois plus sur des pays émergents, parce que j'ai pas cité aussi l'Asie du Sud-Est qui utilise énormément, notamment le Vietnam, donc le Bitcoin comme moyen d'échange. Donc là, moi, en fait, le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est sortez du prix, sortez de la volatilité du prix, revenez sur justement l'utilité du Bitcoin. Donc il y a cette dimension de réserve de valeur, donc on est loin du trading, c'est plutôt set up and forget. Vous achetez et vous conservez pour du long terme au moins 4 ans. Et sur cette dimension de paiement, on voit que les usages dans les pays émergents explosent et on est vraiment sur une infrastructure monétaire de paiement, encore une fois, sans autorité centrale, totalement incensurable, et toutes les autres caractéristiques du Bitcoin qui fait que Bitcoin a de très très beaux jours devant lui, malgré finalement cette baisse de 50% du prix qu'on a eu depuis quelques semaines.
Mais cette baisse, il faut la voir comme une opportunité, vous le savez bien, Jonathan. On le dit souvent dans cette émission, parce qu'il y en a qui ne sont pas contents en ce moment, et ils n'étaient pas contents non plus quand il était à 126. Donc, ça demande une compréhension et du long terme. Effectivement, on l'explique souvent dans cette émission. Merci à tous les trois. Émission qui est passée beaucoup trop vite avec vous, c'est toujours le cas. Nathalie Janson, économiste et professeure à la Neoma Business School. Jonathan Ascovici, fondateur de Stack Insight. Et à distance, Grégory Raymond, cofondateur de Zubigwell. Merci beaucoup à tous les trois d'être
d'être venu. Je vous laisse entre les mains d'Antoine Larry-Gaudry et BFM Bourse. Très bonne journée.
BFM Business, BFM Crypto, le club.